Épidémie de sorcellerie, l'histoire d'une répression, c'est le thème de la conférence que donne demain François Borde. Il est l'ancien directeur des archives municipales de Toulouse. Cette conférence est dans le cadre des jeudis du muséum. Alors, conditions sanitaires obligent. La conférence est à suivre sur la chaîne YouTube du muséum de Toulouse et donc pas en présentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est accessible à tous. Du coup, bonjour François Borde.
Bonjour Isabelle.
Alors cette conférence, elle fait écho à l'exposition qu'on espère pouvoir voir un jour au Muséum de Toulouse. Cette exposition, on en a déjà parlé ici même, elle s'intitule « Magie, sorcellerie ». À quelle époque, François Borde, vous nous plongez dans cette conférence que vous donnez demain sur les sorcières ?
Alors je vais essayer de vous plonger dans la grande époque des chasses aux sorcières, c'est-à-dire en gros au XVIe, XVIIe siècle, et surtout dans la période 1580-1620, mais en essayant aussi de remonter un petit peu plus haut pour voir comment les choses se sont passées dans les mentalités, l'évolution des mentalités qui ont fait notamment à partir du XIVe siècle apparaître un personnage qui va être central dans les périodes postérieures, c'est le diable. Et puis ensuite, d'aller aussi un peu plus loin en nous rapprochant un petit peu de notre époque, en essayant de voir, après l'arrêt des poursuites contre les sorciers et les sorcières, ce qui s'est passé au niveau de la sorcellerie, puisque de façon récurrente, je dirais, la sorcière réapparaît dans l'actualité, ne serait-ce que ces dernières années avec les livres de Mona Chollet et de Catherine Clément.
Alors, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le diable, hein, l'apparition du diable au XIVe siècle qui a fait émerger la figure de la sorcière.
Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, autour du diable s'est créée l'idée qu'il y avait une secte, une véritable secte d'adorateurs et de pactisans avec ce diable, et qui va légitimer aussi l'idée et la réalité du sabbat, réalité qui était combattue par l'Église depuis le début du Xe siècle, mais qui ensuite va évoluer justement avec une réalité de l'envol des sorcières pour aller au sabbat et de tout ce qui se passait bien sûr dans ce sabbat. Et cette idée qui va être une construction intellectuelle de l'Église au départ, puis ensuite des autorités laïques et des juges qui vont être amenés à lutter contre les sorciers et les sorcières, va rejoindre la mentalité populaire qui, elle, depuis tout le temps et jusqu'à maintenant, croit encore en la réalité, non pas de la version sabbatique et démoniaque ou démonologique de la sorcellerie, mais de la sorcellerie populaire, qu'on dit populaire, c'est-à-dire du fait qu'on attribue à certaines personnes le fait d'envoyer des sorts, de faire du mal à soi, sa famille, à sa communauté, etc.
Alors vous avez parlé des sabbats, hein. Les sabbats, je crois que ce sont ces banquets nocturnes que donneraient les sorcières, hein. C'est bien ça, hein ?
Oui, le sabbat, qui s'appelait d'ailleurs au départ aussi synagogue, parce qu'il y a eu une assimilation un petit peu la lutte contre les juifs au XIVe, début du XVe siècle, eh bien c'était ces réunions nocturnes, donc qui se passaient en secret, sur des lieux ou dans des lieux qui sont restés d'ailleurs dans la mentalité populaire et dans le folklore des lieux taxés de lieux de sorcellerie, qui sont soit des lieux élevés, des montagnes, des anciennes tours, des dolmens ou des cromlechs, donc qui perpétuent aussi l'idée d'une religion un peu païenne au départ, et des landes désertiques comme il pouvait y avoir dans certaines régions aussi, et qui étaient favorables, je dirais, à l'éclosion de ces idées.
Alors on parle de sorcières et pas de sorciers, c'était exclusivement des femmes qui étaient incriminées, François Borde ?
Ben, moi, je dis toujours sorciers et sorcières parce que les dernières recherches sur la sorcellerie, sur les procès de sorcellerie, montrent bien que la femme n'a pas été la seule victime des procès. Il y a eu à peu près 70-75% de femmes, donc c'est quand même une grande majorité, mais il y a quand même eu vers 25% et dans certaines régions, comme la Suisse, 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc la femme a été une victime privilégiée, mais pas unique, comme certains écrits récents l'annoncent et le crient sur la place publique. Voilà.
Avec un balai et un grand chapeau. Plus sérieusement, François Borde, est-ce que notre sud-ouest était une terre de sorcières particulièrement, et comment l'expliquer si c'est le cas ?
Ben oui, notre midi a été quand même touché par de grandes affaires de sorcellerie. Le sud-ouest en particulier avec la grande chasse aux sorcières dans le Pays Basque, dans le Labour, hein, la partie entre Bayonne et Sarre, voilà. Donc là où il y a eu un juge qui a laissé des traces parce qu'il a écrit un ouvrage sur les procès qu'il a menés, et donc elle est beaucoup plus connue que d'autres affaires, mais en particulier le Midi Toulousain a connu régulièrement aussi des affaires de sorcellerie, et notamment après les premières grandes chasses aux sorcières, il y a eu un phénomène qui était celui des visiteurs et des connaisseurs de sorciers au milieu du XVIIe siècle, qui a beaucoup touché la zone entre Toulouse et Foix, et où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été accusées et brûlées sur le simple témoignage de gens qui se disaient connaisseurs de la marque des sorciers, qui passaient dans les communautés, dans les villages, pour faire défiler tous les habitants et regarder si dans l'œil, par exemple, ils avaient la marque du diable en forme souvent de pattes de crapaud ou sur l'épaule qui montrait qu'ils étaient sorciers. Voilà, donc ça c'est un phénomène qui a touché toute l'Europe, mais en particulier nos régions aussi.
Et alors, qui étaient les auteurs de ces chasses de sorcières ?
Ben, ce qu'on ne met jamais assez en avant, c'est que en fait, ces affaires partent non pas de la justice elle-même, mais d'accusations ou de témoignages ou de diffamations qui se passent à l'intérieur même des communautés et qui sont une certaine manière de régler des conflits sociaux ou économiques à l'intérieur de ces communautés, de ces villages. Donc n'importe qui peut accuser n'importe qui, donc ça peut être effectivement, on peut accuser des femmes en général, parce que ce sont aussi des femmes souvent qui accusent d'autres femmes, et on sait que les conflits entre femmes à l'époque étaient importants. Donc n'importe qui peut être accusé, et à partir du moment où il y a une accusation, la justice intervient, et là la justice va mettre en œuvre tout ce qu'elle peut mettre en œuvre à l'époque, c'est-à-dire notamment la torture, qui va faciliter bien sûr des aveux sur ces thématiques.
Alors au XVIIe, on est en pleine guerre des religions, est-ce que c'était aussi un terreau qui a permis à cette chasse aux sorcières et aux sorcières de prospérer ?
Oui, c'est évident que les conflits religieux de tout le XVIe siècle, notamment la deuxième partie du XVIe siècle, les crises économiques, parce qu'il y en a eu beaucoup, les catastrophes économiques, les épidémies qui, de façon récurrente, viennent frapper les populations, le passage des troupes pour des raisons diverses et variées, font qu'il y a une insécurité, il y a du malheur, et que ce malheur est en grande partie la cause de ces croyances en la sorcellerie, parce que l'accumulation de malheurs ne peut venir que du diable et que des sorcières qui veulent du mal à la communauté.
Et alors la répression, elle prenait la forme de sorcières sur le bûcher, c'est ça ?
Disons qu'on estime à peu près que sur environ 100 000 procès de sorcellerie dans toute l'Europe, puisque ça a frappé toute l'Europe, aussi bien d'ailleurs les pays catholiques que les pays protestants, il y a eu environ 70 000 bûchers, hein, 70 000 victimes de ces procès. Le bûcher n'était pas la seule peine, mais c'était la peine la plus normale, je dirais, quand on avait des aveux et que la sorcière était ce qu'on appelait la sorcière prouvée, c'est-à-dire qu'on avait des preuves qui n'étaient pas des véritables preuves réelles, mais qui étaient surtout des accusations et des témoignages qui se recroisaient de plusieurs personnes. Donc, merci. Et des aveux, bien sûr, sous la torture. Voilà.
Un grand merci, François Borde. On aurait envie de vous écouter raconter des histoires de sorcières encore longtemps. Eh bien, vous pourrez avoir ce loisir-là demain, jeudi, à 18h30. Ça sera en direct sur la chaîne YouTube du Muséum de Toulouse. Il y aura d'autres rendez-vous les prochains jeudi du Muséum. Ça sera le 4 et le 18 février. Un grand merci à vous, François Borde.
Merci à vous aussi.